Bonjour, bienvenue dans l'émission de la langue brune. Vu ce qui se passe en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, j'avais envie, pour cette émission, de vous laisser entendre des extraits du roman « La vague » de Todd Strasser. C'est une adaptation romancée d'une expérience réelle menée par un professeur d'histoire avec ses élèves pour expliquer les mécanismes du fascisme dans un lycée de Californie en 1967. Cette expérience a également inspiré un téléfilm tout d'abord, réalisé en 1981 par Alexandre Grassoff, qui a quand même reçu un Emmy Award. Mais on connaît surtout l'adaptation cinématographique The Wave, réalisée par Denis Ganzel, avec Jürgen Vogel, qui incarne le professeur Ron Jones. Ils étudiaient la Seconde Guerre mondiale. Le film que Ben voulait leur montrer ce jour-là était un documentaire sur les atrocités commises par les nazis dans les camps de concentration. Dans la salle plongée dans l'obscurité, les élèves ne quittaient pas l'écran des yeux. Ils voyaient des hommes et des femmes émaciés, tellement affamés qu'ils ressemblaient à des squelettes ambulants. Des gens dont les jambes étaient si maigres que leurs rotules saillaient sous la peau. Tandis que le film défilait, Ben s'adressa à ses élèves la voix chargée d'émotions. « Ce que vous voyez s'est produit en Allemagne entre 1934 et 1945. C'est le fait d'un homme appelé Adolf Hitler, un ancien manœuvre, gardien et peintre en bâtiment, qui se lança en politique après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait perdu cette guerre, sa puissance était au plus bas, l'inflation au plus haut et des milliers de personnes se retrouvaient sans abri, sans emploi, sans rien à manger. » Hitler y vit une opportunité de grimper rapidement dans la hiérarchie du parti nazi. Il embrassa la doctrine présentant les juifs comme les destructeurs de la civilisation et les Allemands comme la race supérieure. De nos jours, nous savons que Hitler était paranoïaque, psychopathe, littéralement fou. En 1924, il fut jeté en prison pour ses activités politiques, ce qui ne l'empêcha pas, en 1933, d'arriver à la tête du gouvernement avec son parti. Ben s'interrompit un instant pour laisser ses élèves se concentrer sur le documentaire. Il montrait maintenant les chambres à gaz et des piles de cadavres disposées comme des bûches. Il s'adressa de nouveau à ses élèves. Les camps de la mort constituaient ce que Hitler appelait la solution finale à la question juive. Pourtant, les nazis n'y envoyaient pas seulement les juifs, mais tous ceux qu'ils considéraient indignes d'appartenir à la race supérieure. Les détenus étaient acheminés vers les camps depuis les quatre coins de l'Europe, où ils enduraient travaux forcés, famine et torture. Dès qu'ils devenaient trop faibles pour travailler, ils étaient exterminés dans les chambres à gaz. Leurs dépouilles finissaient ensuite dans les fours crématoires. Tandis que le documentaire touchait à sa fin, Ben déclara « En tout, les nazis ont assassiné plus de 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans leurs camps d'extermination. » Une fois le film terminé, un élève près de la porte ralluma la lumière. Vers le fond de la salle, un lycéen noir prénommé Eric leva brusquement la main. « C'est n'importe quoi » lança-t-il. « Comment pourrait-on massacrer 10 millions de gens sans que personne s'en aperçoive ?»« C'est vrai » approuva Brad, celui qui avait chambré Robert Billings avant le début du cours. « C'est impossible !» À l'évidence, le film avait touché une grande partie de la classe. Ben se réjouissait d'avoir piqué leur intérêt. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la guerre, les Allemands affirmèrent qu'ils ignoraient l'existence des camps de concentration et des tueries. Laurie Saunders leva la main à son tour. Mais Eric a raison. Comment les Allemands ont-ils pu laisser les nazis assassiner des gens presque sous leurs yeux pour ensuite affirmer qu'ils n'en savaient rien? Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Comment ont-ils même pu dire une chose pareille? Ma seule réponse, c'est que les nazis étaient extrêmement bien organisés et redoutés de tous. L'attitude du reste de la population demeure un mystère. Pourquoi n'avoir rien fait pour les arrêter? Pourquoi affirmer ne pas être au courant? Nous n'en savons rien. Eric leva la main une nouvelle fois. « Moi, en tout cas, je ne laisserai jamais une minorité de ce genre gouverner la majorité. »« Ouais, » fit Brad. « C'est pas un ou deux nazis qui me forceraient à dire que je n'ai rien vu ni rien entendu. » D'autres mains se levèrent, mais avant que Ben ait pu donner la parole à quelqu'un, la sonnerie retentit et les élèves commencèrent à se ruer dehors. Le lendemain, les élèves entrèrent en classe au ralenti comme d'habitude. Certains allèrent s'asseoir directement, d'autres restèrent debout pour papoter. Robert Billings, assis comme toujours près des fenêtres, faisait des nœuds à la cordelette des stores. Brad, qui ne manquait jamais une occasion de le tourmenter, en profita pour venir lui tapoter le dos, lui collant au passage sur la chemise un petit papier où l'on pouvait lire « Je suis un âne ». Un cours d'histoire ordinaire en somme. Mais l'atmosphère changea lorsque les lycéens remarquèrent la phrase écrite en grosses lettres au tableau. « La force par la discipline ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda un élève à Ben. « Je vous le dirai, dès que vous serez tous assis. » Une fois qu'ils furent installés, le professeur commença le cours. « Aujourd'hui, je vais vous parler de discipline. » Un gémissement collectif s'éleva dans la classe. Avec certains profs, Les élèves s'attendaient à s'ennuyer. Mais les cours de Ben Ross étaient plutôt bons d'habitude. Par exemple, on n'y parlait jamais de trucs barbants, comme la discipline. Attendez, avant de juger, donnez-moi une chance, ça pourrait être intéressant. Ben voyons, railla quelqu'un. C'est pourtant vrai. Quand je vous parle de discipline, je vous parle en fait de pouvoir, déclara-t-il en serrant le poing pour donner de la force à son propos. Et de réussite. La réussite par la discipline. Y a-t-il quelqu'un dans la classe que le pouvoir et la réussite n'intéressent pas ? Robert, probablement, lança Brad, ce qui en fit ricaner quelques-uns. Passons. David, Brian et Eric, vous êtes dans l'équipe de football. Vous savez déjà qu'il faut de la discipline pour gagner. Ce qui explique sans doute qu'on n'ait pas remporté un seul match en 2 ans, répondit Eric, déclenchant l'hilarité générale. Il fallut plusieurs minutes au professeur pour les ramener au calme. Écoutez, reprit-il en se tournant vers une jolie élève rousse qui semblait se tenir plus droite que ses camarades. Andrea, tu fais de la danse classique. Ne faut-il pas de longues heures de travail intensif pour être danseuse étoile ? Elle acquiesça. Ross s'adressa alors au reste de la classe. Il en va de même pour tous les arts, la peinture, l'écriture, la musique. Il faut des années de dur labeur et de discipline pour les maîtriser. De dur labeur, de discipline et de contrôle. Et alors ? Le coupa un élève avachi sur sa chaise. Et alors ? Je vais vous montrer. Supposons que je puisse prouver qu'on peut obtenir le pouvoir par la discipline. Supposons qu'on puisse le faire tout de suite, dans cette classe. Qu'en diriez-vous ? S'attendant à d'autres plaisanteries, Ben fut surpris par le silence qui accueillit ses paroles. Contre toute attente, il avait éveillé l'intérêt et la curiosité des lycéens. Il contourna son bureau et plaça sa chaise en bois sous le tableau de manière que tous puissent la voir. Bien. La discipline commence dès la posture. Amy, viens là un instant. Lorsqu'elle se leva, Marianne marmonna « Chouchoute ». D'habitude, cela aurait suffi à faire rire toute la classe, mais seuls quelques élèves pouffèrent. Les autres l'ignorèrent, trop occupés à se demander ce que le professeur avait en tête. Lorsque Amy s'assit sur la chaise, Ben lui indiqua comment se positionner. « Mets tes mains à plat sur tes hanches et force ta colonne à se redresser. Voilà, tu respires mieux, non ?» Dans la classe, la majorité des élèves adopta la même position. Cependant, même s'ils se tenaient plus droit, certains ne pouvaient s'empêcher de trouver la scène comique. David fut le suivant à faire le malin. « Moi qui croyais être en cours d'histoire, j'ai dû me tromper de chemin et atterrir en EPS par erreur. » Les rares qui rigolèrent n'en essayèrent pas moins d'améliorer leur posture. « Allez David, essaie !» On a eu notre quota de plaisanterie pour la journée. David se redressa en maugréant. Pendant ce temps, le professeur passait dans les rangs, vérifiant la position de chaque élève. Incroyable, pensa Ross. Pour une raison ou pour une autre, il les avait captivés. Même Robert.
Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkneten. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladusaladimbe. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen und keine Eier!
À partir de maintenant, vous devrez obéir à 3 nouvelles règles. Premièrement, tout le monde doit apporter ses propres affaires pour prendre des notes. Deuxièmement, lorsque vous poserez ou répondrez à une question, vous devrez vous lever et vous placer à côté de votre table. Et troisièmement, vous commencerez vos questions ou réponses par Monsieur Ross. Compris ? Partout dans la classe, des têtes opinèrent. Bien, Brad, qui était le premier ministre anglais avant Churchill ? Sans se lever, Brad se mit à se ronger un ongle. Ce n'était pas... Avant qu'il puisse en dire davantage, Ben l'interrompit. Raté, Brad. Tu as déjà oublié les nouvelles règles. » Il se tourna vers Robert. « Robert, montre à Brad la procédure adéquate pour répondre à une question. » Aussitôt, Robert prit place à côté de son bureau, au garde-à-vous. « Monsieur Ross, » dit-il. « C'est bien, merci Robert. » « C'est débile, » marmonna Brad. « Tu dis ça parce que t'as pas été fichu de le faire, » rétorqua un de ses voisins. « Brad, » reprit Monsieur Ross, « qui était Premier ministre avant Churchill ?» Cette fois-ci, le garçon se leva et se plaça sur le côté. « Monsieur Ross, c'était le Premier ministre Tu es toujours trop lent, Brad, » le coupa le professeur. « Dorénavant, vous répondrez le plus rapidement possible, avec des phrases aussi courtes que possible. Maintenant, Brad, essaie encore. » Cette fois-ci, l'élève se leva d'un bond et clama. « Monsieur Ross, Chamberlain. » Ben le félicita d'un signe de tête. Voilà une réponse digne de ce nom. Énergique, courte, nette et précise. « Andrea, quel pays Hitler a-t-il envahi en septembre 1939 ?» Andrea, la ballerine, se leva et se tint bien droite. « Monsieur Ross, je ne sais pas. » Ben sourit. « Au moins, tu as répondu selon le protocole. » « Amy, connais-tu la réponse ?»« Monsieur Ross, la Pologne, » répondit-elle après avoir bondi à côté de son bureau. « Excellent !» « Brian, quel était le nom du parti politique de Hitler ?» Le garçon quitta sa chaise aussi vite que possible. « Monsieur Ross, le parti nazi. » « C'est bien, Brian, très rapide. » « Et maintenant, quelqu'un connaît-il le nom officiel du parti ?»« Lori ?» Lori Saunders se plaça à côté de sa table. « Le parti national, non !» Un claquement retentissant les fit tous sursauter. Ben venait de frapper son bureau avec une règle. « Recommence, comme il faut. » Lori se rassit, l'air interdit. Qu'avait-elle fait de mal ? David se pencha vers elle et lui murmura trois mots à l'oreille. « Ah oui, c'est vrai, pensa-t-elle. » Elle se leva de nouveau. « Monsieur Ross, le parti national-socialiste des ouvriers allemands. » « Exact. » Ben continua à poser des questions et tous participèrent, désireux de montrer qu'ils connaissaient la réponse et la manière correcte de la donner. On était loin de l'atmosphère habituellement détendue du cours, mais ni Ben ni les lycéens ne prirent le temps d'y réfléchir. Ils étaient bien trop captivés par leur nouveau jeu. La vitesse et la précision des questions-réponses étaient stimulantes. Bientôt, Ben se retrouva en nage. À chaque nouvelle question, un élève différent se levait pour crier une réponse concise. « Peter, qui a proposé la loi du prêt-bail ? Monsieur Ross, Roosevelt. » « Exact. Eric, qui est mort dans les camps de concentration ? Monsieur Ross, les Juifs. » « Et qui d'autre, Brad ? Monsieur Ross, les gitans, les homosexuels et les malades mentaux. » « Bien. Amy, pourquoi ont-ils été assassinés ? Monsieur Ross, parce qu'ils n'appartenaient pas à la race supérieure. » « Exact. David, qui dirigeait les camps ? Monsieur Ross, les SS. Excellent. »
I'm not the only one.
se passa le lendemain stupéfia Ben. Pour une fois, ce fut lui qui arriva en classe après la sonnerie et non ses élèves. Ce matin-là, il avait oublié par inadvertance ses notes et le livre sur le Japon dans sa voiture et dû courir au parking juste avant le cours. Tandis qu'il se ruait vers la classe, il imaginait déjà le bazar total qui l'attendait. La surprise fut de taille. Dans la salle, les 5 rangées de 7 bureaux individuels étaient impeccables. À chaque bureau se tenait assis un lycéen, bien droit, dans la position que Ben leur avait apprise la veille. Le silence régnait. Ben balaya la pièce du regard mal à l'aise. S'agissait-il d'une blague ? Ici et là, certains réprimaient un sourire, mais ils étaient en minorité face au nombre de visages sérieux regardant droit devant d'un air concentré. Quelques-uns lui lancèrent des regards interrogateurs, attendant de voir s'il irait plus loin encore. « Maintenant, il nous faut un symbole pour notre nouvelle communauté », déclara Ben. Après un instant de réflexion, il dessina au tableau une vague entourée d'un cercle. « Ce sera notre logo. La vague évoque le changement. Elle représente un mouvement, une direction. À partir de maintenant, notre communauté, notre mouvement, s'appellera la vague. » Il marqua une pause et observa ses élèves au garde à vous qui buvaient ses paroles. « Et voilà notre salut !» Il courba la main droite en forme de vague, frappa son épaule gauche avant de relever la main. « Tout le monde fait le salut !» La classe obtempéra. Certains se frappèrent l'épaule droite au lieu de l'épaule gauche. D'autres oublièrent complètement de se frapper une épaule. « Encore !» ordonna-t-il, donnant l'exemple. Il les fit recommencer jusqu'à ce que tout le monde y arrive. « Bien !» dit-il enfin. Les élèves sentaient une nouvelle fois monter en eux l'impression de puissance et d'unité qui les avait envahis la veille. Vous venez d'entendre des extraits de La Vague de Todd Strasser dans l'émission de La Langue Brune. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur le site de la radio www.principactif.net ou sur la page Facebook de La Langue Brune. Parmi les musiques qui ont accompagné ces lectures, vous y avez peut-être reconnu le groupe Frustration qui passe le 31 mars à la SMAC d'Evreux. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission le samedi 18 mars. Et pour pas changer, on va finir par un morceau de Frustration. Au revoir.